Bonsoir et merci d'être à l'écoute de RFI, le journal à 20h, temps universel.
Mathis Limano.
Une nouvelle journée de manifestation en Turquie contre le pouvoir et en soutien au maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, envoyé en prison et démis de ses fonctions. La répression qui se poursuit dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux. À l'instant, les autorités annoncent suspendre des centaines de comptes d'opposants politiques, des comptes X. On appelle notre correspondante en Turquie dès le début de ce journal. Les frappes se poursuivent avec une intensité inédite à Gaza. 30 personnes tuées la nuit dernière dans l'enclave. L'accord de trêve entre Israël et le Hamas vole en éclats depuis quelques jours. La population est éprouvée. On entendra le témoignage d'un habitant. En France, c'est l'indignation après l'agression hier d'un rabbin. Ça s'est passé à Orléans, dans le centre du pays. Arié Engelberg rentrait de la synagogue avec son fils lorsqu'un individu s'en est violemment pris à lui. Et puis on joue la 15e minute au Stade de France. Les Bleus, dos au mur, reçoivent les Croates en quart de finale de Ligue des Nations. Pour l'instant, il y a toujours 0-0. Tout d'abord, direction la Turquie, le pays qui s'enlise dans une grave crise politique. Le maire d'Istanbul est principal opposant au président Erdogan, envoyé en prison et démis de ses fonctions. Ekrem İmamoğlu est poursuivi par la justice turque pour corruption. Mais depuis 4 jours et son arrestation, les centaines de milliers de manifestants dénoncent, eux, un coup d'État orchestré par le président. Anand Loer, vous êtes à Istanbul pour RFI. De nouvelles manifestations ce dimanche, notamment devant la mairie d'Istanbul.
La foule de ce dimanche est encore plus impressionnante que celle des soirs précédents. Encore plus de jeunes notamment, ces jeunes qui sont en première ligne depuis le début de la protestation. Toujours les mêmes cris de ralliement, droit, loi, justice, gouvernement, démission, n'aie pas peur aussi. La colère est montée d'un cran car cette nuit, Ekrem İmamoğlu dort en prison. L'autre mobilisation a eu lieu pendant la journée dans les bureaux de vote installés partout dans le pays par le CHP, le parti d'Ekrem İmamoğlu, pour le désigner comme son candidat à la prochaine présidentielle. Le maire d'Istanbul était seul en lice, mais vu l'importance de la participation, plus de 15 millions selon le parti, on peut parler d'un plébiscite pour cette figure de proue de l'opposition turque. Ekrem İmamoğlu est actuellement en détention provisoire. Cela veut dire qu'il a peu de chances d'être libéré avant l'ouverture d'un procès. Impossible de savoir quand ce procès débutera, combien de temps il durera. Cela peut prendre plusieurs années. C'est un calendrier qui échappe totalement à Ekrem İmamoğlu et à son parti. Un calendrier qui n'appartient qu'à la justice, c'est-à-dire en Turquie, au président Erdogan. Anand Loer, Istanbul, RFI.
Un nouveau signe du durcissement de la répression contre les manifestations et l'opposition politique en Turquie. Les autorités turques annoncent le blocage de plus de 700 comptes X d'opposants politiques. Dans la bande de Gaza, le cap des 50 000 victimes franchies. C'est le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas. 30 personnes ont été tuées par des frappes la nuit dernière. Parmi elles, un haut responsable du bureau politique du Hamas à Gaza, Salah al-Bardawi, 65 ans, a été tué près de Khan Younes, dans le sud de l'enclave. Une information confirmée par le mouvement palestinien. Khan Younes, où la défense civile rapporte à l'instant une frappe qui a touché l'hôpital de la ville. Cela fait 6 jours qu'Israël a rompu l'accord de trêve et repris la guerre avec une intensité inédite. La population est éprouvée par les bombardements. Amira Swilem, correspondante régionale de RFI, a pu s'entretenir avec un habitant de Gaza.
Benjamin Netanyahou avait promis l'enfer si tous les otages israéliens n'étaient pas libérés. Les frappes de ces dernières heures semblent y ressembler. C'est en tout cas le sentiment d'Iya, d'ancien employé d'un hôpital gazaoui. Lui était à Deir el-Balah, dans le centre de Gaza, quand une frappe a eu lieu hier.
Au moment de l'attaque, je buvais une tasse de thé posée devant moi sur la table quand j'ai ressenti un soulèvement massif et inédit, un peu comme si un tremblement de terre avait eu lieu. Nous avons été choqués d'apprendre que la frappe avait été menée dans le centre de Khan Younes, au sud de Gaza. La distance entre l'épicentre de la frappe et l'endroit où je me trouvais était d'à peu près 13 kilomètres.
Cette intensification des frappes, annoncée et assumée par Israël, vise à faire pression sur le Hamas officiellement. Pour Iyad, les objectifs ne sont pas que militaires.
La nature des bombes qui sont larguées sur nous sont d'une nature complètement différente de ce qui se faisait jusqu'ici. Le but est de détruire de grandes aires résidentielles et de faire le plus de victimes possible. Ces explosions sont complètement différentes des précédentes et cela nous pousse à penser que ce sont de nouveaux types de bombes qui sont désormais utilisées.
Ce matin, l'armée israélienne a ordonné l'évacuation d'un quartier de Rafah dans le sud de l'enclave, poussant des colonnes de Gazaouis à reprendre la route à la recherche d'un hypothétique nouveau refuge. Amira Swilem, Ramallah, RFI.
Dans la lignée des déclarations de Donald Trump, Israël annonce la création d'une administration spéciale chargée de faciliter le départ volontaire des Gazaouis vers d'autres pays. Une décision dénoncée par une ONG israélienne anti-colonisation. Israël reconnaît avec cette création commettre des crimes de guerre à Gaza, souligne l'organisation. Le gouvernement israélien a aussi voté ce dimanche en faveur du limogeage de Gali Baharav Miara. Elle est la procureure générale du pays. Cette magistrate indépendante s'est opposée à plusieurs reprises à Benjamin Netanyahou, notamment en ordonnant une enquête sur les liens du Premier ministre avec le Qatar. Qatar, principal financeur du Hamas et médiateur clé dans le conflit. Donald Trump veut nous briser sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis. Le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney annonce des législatives anticipées. Elles se tiendront le 28 avril. Je demande aux Canadiens un mandat fort pour faire face à Donald Trump, a déclaré Mark Carney. En France, le rabbin d'Orléans agressé hier en pleine rue. Il rentrait de la synagogue avec son fils de 9 ans lorsqu'il a été frappé et mordu par un adolescent. Depuis, il a été placé en garde à vue. Un acte antisémite de plus alors que le ministère de l'Intérieur en a recensé 1570 l'an dernier. Il représente 62% des actes antireligieux. Stéphane Duguay, les condamnations dans la classe politique sont unanimes.
À commencer par le président de la République, Emmanuel Macron adresse tout son soutien au rabbin agressé, à son fils et à toute la communauté juive. Il dénonce le poison de l'antisémitisme, des mots partagés par le chef du Parti Socialiste Olivier Faure. À gauche, encore Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, est un des premiers à réagir. Il parle d'une agression violente, insupportable, qui s'est produite alors que se tenaient plusieurs manifestations contre le racisme partout en France. Le chef des Insoumis était déjà sous le feu des critiques à cause d'une affiche qualifiée d'antisémite, publiée puis supprimée par son parti. Manuel Bompard a passé sa journée à répondre sur les réseaux sociaux à plusieurs accusations formulées par des responsables de droite et d'extrême droite. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, estime que les mouvements d'extrême gauche attisent la haine, écrit-il sur X. Marine Le Pen, elle, se fait plus précise. Elle met en cause directement LFI, accusée d'avoir mis une cible dans le dos, je cite, des personnes juives, avec des propos insupportables et des visuels nauséabonds. Pour le coordinateur de LFI, ces critiques sont une opération politicienne et une instrumentalisation de l'agression du rabbin d'Orléans.
Stéphane Duguay, c'était sa première apparition en public depuis plus de 5 semaines. Le pape François est sorti de l'hôpital Gemelli de Rome ce dimanche. Il était hospitalisé depuis le 14 février pour une double pneumonie. Avant sa sortie de l'hôpital, il a béni et salué depuis le balcon de sa chambre la foule réunie pour l'occasion. À 88 ans, il faudra beaucoup de temps au pape François pour se remettre complètement, ont annoncé ses médecins. On file maintenant au Stade de France où Victor Missistrano nous attend. France-Croatie en Ligue des Nations. Les Français dos au mur dans ces quarts de finale doivent gagner. Victor, on joue la 22e minute.
Oui, et pour l'instant toujours 0-0 entre la France et la Croatie. Une équipe de France qui montre d'autres intentions que celle du match aller. Alors là, c'est vraiment le jour et la nuit par rapport à cette défaite 2-0 en Croatie à Split. Les Bleus se sont créés les meilleures occasions alors que là, Kylian Mbappé a failli reprendre un centre d'Ousmane Dembélé. Kylian Mbappé qui s'est créé une grosse occasion, tout comme Aurélien Tchouaméni il y a quelques minutes, dont la tête a flirté avec le montant. Et puis il y a à peine 2 ou 3 minutes, c'est Michael Olise qui s'est écroulé dans la surface à 2 reprises. On a cru à un possible pénalty, mais l'arbitre n'a pas bronché. Le public répond présent, tout comme ses joueurs, bien décidés à les aider à réaliser cette remontada. Un public qui fait face à une belle adversité aussi. Les Croates se sont déplacés en nombre. Ils sont en face de nous, là-bas sur la droite, quelques milliers, entre 3 et 5 000. Peut-être, et le Français Kylian Mbappé, capitaine de cette équipe, qui a harangué la foule. Voilà, les Français sont bien décidés à créer un moment, à offrir du spectacle bien différent. Mais pour l'instant, 0-0, c'est donc la Croatie qui se dirige vers les demi-finales. Mais il reste encore énormément de temps aux Français pour remonter cet avantage de 2 buts et filer vers les demi-finales.
Victor Missistrano en direct du Stade de France. Merci Victor. 0-0, c'est aussi le score entre l'Allemagne et l'Italie, entre le Portugal et le Danemark. L'Espagne, elle, mène 1-0 contre les Pays-Bas.